Le masque et la plume. Bonsoir à tous, bienvenue en public au studio Sacha Guitry de la maison de Radio France pour Un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité du cinéma avec la sonde Rosetta de la critique, Daniel Eman de Marianne et puis les robots Philae de la critique, Michel Simon bien sûr, de Positif, Xavier Leherpeur de Studio Ciné Live. Éric Neuhoff du Figaro pour parler ce soir d'Interstellar, on n'a pas le choix, de Quand vient la nuit, d'une nouvelle amie, on n'a pas le choix, de Marie Hortin, de La prochaine fois je viserai le cœur, de Respire. Dans le courrier de la semaine, nos auditeurs ont goûté plus que moi le nouveau Woody Allen, Magic in the Moonlight, Annie Jolie, ce film sous les apparences d'une jolie comédie nous ramène à cette idée simple, la vie n'est qu'illusion et la seule magie réside dans l'amour. Denis Truchot, un Woody Allen abouti et réussi, il a soigné son scénario avec un langage un peu précieux, mais pour une bonne cause, la défense du beau parler en voie de disparition. Étienne de Haas de Lyon est plus mesuré, il parle d'une sympathique sucrerie allénienne assez légère pour passer le temps avant son prochain vrai film. Quant à la bande de filles de Céline Sciamma, elle vous a enthousiasmé. Salima Tenfish, Xavier Dolan en a rêvé, Céline Sciamma l'a fait, un grand film sur la liberté et la souffrance de l'affranchissement, Luc Brou de Caen à l'opposé du film à thèse sur la banlieue, un sublime film sur la jeunesse et un film politique à voir absolument, Jean-Pierre Dusséau, un film bouleversant et d'une tristesse infinie sur cette jeunesse qui veut mais ne peut pas. Jacques Tenier s'étonne que personne à la tribune n'ait dit qu'il s'agissait d'une variation évidente de la pièce de Shakespeare, Roméo et Juliette. Comment avez-vous pu passer à côté ? Michel, comment a-t-on pu passer à côté ? Ghislaine Audoyer, vous avez méprisé Chemin de croix, mais j'ai fait un parallèle avec Bande de filles. C'est le portrait de deux jeunes filles qui, se heurtant à leur environnement, oppressant, s'en excluent de manière radical. J'avais pas fait le lien entre les deux films, mais on peut effectivement le faire. Pierre Selma juge pour sa part que sans perspective de révolution, sans le communisme, ces jeunes ne sont plus que des Lupin prolétaires condamnés à se cogner la tête contre les murs et à faire triompher malgré eux les valeurs immondes du fascisme. Seule fausse note, elle nous vient de Sébastien Delbès. Vouloir éviter le film militant, on se retrouve face à un film en kit, je ne comprends pas comment on peut faire un film qui se passe en banlieue sans la dépeindre dans sa complexité. Voilà, Nicolas Reynaud d'Antibes est très en colère parce que Éric Neuhoff a décrit Salgado comme étant le David Hamilton de la misère. C'était pas très bon goût. Mon sang n'a fait qu'un tour. Ma femme m'a rattrapé dans l'escalier car je montais sur Paris. C'est méconnaître totalement le travail de Sébastiao Salgado, son œuvre et son engagement, Éric. Toujours pour Éric, Jean-Pierre Marquet, Éric Neuhoff a déclaré que Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, était un abruti. Je signale que cet abruti, Éric, a décidé en 2010 d'apprendre le chinois, qui est sans doute la langue la plus difficile au monde. Je veux bien entendre les remarques de M. Neuhoff sur le sujet, à condition qu'il s'exprime lui aussi en mandarin.
C'est pour envahir le marché là-bas, il fait ça.
Denis Cadoré, lui, s'adresse à Xavier. M. Leherpeur a tout à fait le droit de trouver le dernier film de Fincher raté, mais je suis désolé, pour reprendre la rhétorique leherpeurienne, il y a bien plus de cinématographie dans Gone Girl que dans Pride ou dans Hunger Games, film récemment apprécié par ce dernier. Enfin,
je sais même pas quoi répondre.
Enfin, une proposition très sérieuse pour finir de Stéphane Aznar. Cher Jérôme Garcin, l'Académie Bob l'Éponge accepte-t-elle de nouveaux membres ? Si tel est le cas, je serais heureux d'en faire partie car je partage en tout point les avis éclairés de son président fondateur. Il n'est pas président, je crois pas. Xavier Leherpeur.
Pourquoi je ne serais pas président ?
Parce que c'est mon fils. Sur Gone Girl, je partage son avis sur Gone Girl, farce grotesque et crétine, et sur Samba, comédie délicate, militante et réalisée avec soin. Merci d'intercéder en ma faveur. Donc je te laisse le mail, Xavier.
Évidemment, il est des nôtres.
Pour l'entrée évidemment, à l'Académie Bob l'éponge, beaucoup plus chic que celle du Quai Conti. Allez, rapidement, si vous voulez bien, avec Interstellar de Christopher Nolan, 2h50 avec Matthew McConaughey, Jessica Chastain, Mackenzie Foy, plein de comètes aussi. Point de départ, la Terre est foutue. Et il faut aller voir là-haut, à bord d'un vaisseau interstellaire. Matthew McConaughey, qui est un ancien pilote devenu fermier, ce qui est très convaincant, part avec un petit groupe. Il franchit un trou de verre, je ne vous dis pas ce que c'est, et il cherche une nouvelle planète habitable, surtout colonisable. Alors, il y a deux films, l'aventure spatiale, qui est assez épatante. Enfin, moi, je trouve moins impressionnante que Gravity. Et surtout, un cours de rattrapage pour les nuls sur la gravité, la relativité, la vie, la mort, que j'ai eu du mal à supporter. Mais je l'ai mieux supporté que ce que j'ai lu dans la presse, quand même, ici ou là, pas partout, à savoir qu'on avait découvert notre nouveau Kubrick, notre nouveau 2001 Odyssée de l'espace. Vous me dites, pas trop longuement, enfin moins que 2h50, ce que vous en pensez, Xavier ?
Oh, quel nanar ! Non, mais je veux dire, il y a un moment, il faut appeler les choses telles qu'elles sont. Évidemment, oui. C'est époustouflant en termes de
mise en scène. Il y a des images impressionnantes.
Et visuellement, mais ça cache un scénario d'une bêtise, mais qui, dès le départ, quand même, sonne creux. C'est-à-dire que la gamine qui tire la manche de son papa toutes les 30 secondes, il y a un fantôme dans ma chambre, il y a un fantôme dans ma chambre. Le père met quand même une bonne demi-heure à lui dire non, mais j'en ai rien à faire. Et puis il rentre dans la chambre, il fait ah, mais oui, tu as raison, ma chérie. Et il écrit en morse. On ne sait même pas pourquoi il a compris qu'il écrivait en morse. De là, il découle la découverte d'une station spatiale hyper top secrète. Ils sont entravés, on leur met une cagoule sur la tête pour rentrer, parce que c'est top secret. Et au bout de 10 minutes d'interrogatoire, on leur dit « Mais on avait très envie de vous rencontrer parce que justement, on voulait vous confier le vaisseau qu'on va envoyer à la poursuite des 12 autres vaisseaux qu'on a envoyés il y a des années. » Et tout est stupide comme ça, constamment. C'est effroyable. À un moment, ils vont sur une planète où il y a une distorsion temporaire. C'est quand même génial, ce truc-là. Donc, celui qui reste dans le vaisseau, ça dure 10 minutes. Enfin, non, ceux qui vont sur la planète, ça dure 2 minutes. Et pour celui qui reste dans le vaisseau, ça dure 23 ans. C'est-à-dire que le mec, il reste 23 ans tout seul. Quand ils reviennent 23 ans plus tard pour lui, il n'est pas du tout affolé. Il va bien, il les attendait, tranquille, oui, c'était amusé. Il y avait des petits jeux comme ça. Et tout le film est comme ça, d'une bêtise, d'une prétention.
Avec quand même des commentaires, parce que c'est ça qu'il faut dire. Ah, Gravity, ce qui était génial, c'est qu'il n'y avait rien.
Il n'y avait rien, et puis au moins, c'était le plaisir du spectateur.
Il y avait le souffle.
Communicatif. Là, on se prend mais des tonnes et des tonnes d'explications stériles, ennuyeuses. On lutte contre le sommeil, et en même temps, on se retrouve vraiment avec des ficelles de scénario. Le mec qui est poursuivi par une vague géante et qui dit « Ah, mais je vais quand même aller chercher un truc que j'ai laissé derrière. » Mais non, il va pas à coco toute la salle. Lui crie, enfin écoute, t'es complètement idiot, t'as jamais vu une série télévisée de ta vie, tu vas y rester. Il y reste. C'est quand même génial. Non mais attendez, mais ça sert à rien qu'on fasse des films comme ça et qu'on en fasse autant pour que les mecs ils connaissent pas le béaba, j'allais dire, du scénario. Et ça dure 2h50 de prétention.
Car ça en laissant.
Et d'ennui. Ah ouais, non mais vraiment. Mmh. Ça ne démarre pas très très bien et je le comprends.
Eric, ah bon, c'est vrai que ça marche pas?
Non, c'est pas génial. C'est-à-dire 3 heures, donc il y a moins de séances, mais 600 000 en 4 jours, c'est pas... Ça aurait dû faire beaucoup plus. Hein.
C'est quand même pas mal. Eric.
Ah non, oui. Bah, on n'y comprend absolument rien.
Si, on comprend,
non,
si.
Moi, je n'ai rien
si,
compris.
Si, c'est expliqué, tout est expliqué.
Oui, mais, pourtant, c'est on des explique, explications hein. différentes toutes les 5 minutes. Il y a des trous noirs, de l'espace-temps. Ça pourrait être un bon film à condition de sauter tout ce qui concerne l'espace. Parce que...
C'est presque mieux sur Terre, je suis d'accord avec
mais
toi.
Oui. Mais je ne sais pas ce qui lui a pris, parce que Inception, on ne comprenait rien, mais ça n'était jamais ennuyeux. Alors que là, c'est d'une prétention, de la philosophaillerie sans arrêt, Nietzsche, Borges, les livres, les messages, la paternité. Au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'il s'est écoulé sur la Terre pendant que lui est là-haut. 22 ans ou quelque chose comme ça. Mais moi, c'est un peu le sentiment que ça m'a,
oui, ça
m'a
paraît,
donné.
Ça
là.
Paraît ça, beaucoup plus que 2h50.
Le film m'a rappelé ce que disait Billy Wilder de l'opéra. C'est le truc qui commence à 8h. Au bout de 2h, vous regardez votre montre, il est 8h30. Et c'est exactement ça. Là. En plus, il y a une musique de Hans Zimmer qui vous en met plein les oreilles. C'est terrible, terrible. À moins que, comment s'appelle-t-il, Nolan s'est dit, il y a un truc que le cinéma n'arrive jamais à faire, c'est faire vieillir les acteurs parce que les grimaces sont toujours ratées. Là, il s'est dit... Le type, il va partir dans l'espace, il ne bougera pas, ce sera toujours McConaughey, et quand il rentrera, les autres, sa fille sera devenue Jessica Chastain, et c'est bête, bête, ennuyeux, et vous aurez remarqué que sur Terre, où tout est dévasté, la seule plante qui pousse encore, ce sont des maïs. Et bien ça, c'est pour faire des pop-corn dans les multiplex où va passer le film.
Enfin, moi, j'ai beaucoup pensé, encore une fois, à Gravity. Je n'avais pas, à l'époque, surestimé, mais j'en avais une nostalgie pendant ce film absolument immense. Daniel.
Et oui, mais parce que dans Gravity, tu étais vraiment dans l'espace comme ils y étaient eux-mêmes, c'est-à-dire avec ce souffle, avec ce côté oppressant, suffocant. Alors là, c'est formidable. Alors, formidable, la fille du professeur, qui est Michael Caine, parce que vraiment, il faut toujours qu'il y ait Michael Caine dans les films de Nolan, elle est charmante, c'est Anna Hathaway. Et alors, elle est toujours impeccablement coiffée sous sa bulle de scaphandre. Ça, c'est alors, ça bouge pas. Hein, la mise en pli, le brushing, impec. Quant à Monsieur McConaughey, alors, il fait de grandes, longues siestes dans un sarcophage de cryogénisation. Il sort impec. Il dit, oh, merde, 120 ans. Oh, ça. Il n'a pas bougé, pas bougé.
Il a oublié d'éteindre l'électricité.
Ah non, mais c'est extraordinaire. Et puis alors, dans le dialogue, il y a des choses formidables. Par exemple, j'ai perdu mes circuits quantiques. Moi, le matin, je me réveille, je me dis, oh, ça ne va pas très fort. Là, je crois que j'ai perdu mes circuits quantiques. Parce qu'il faut savoir que le conseiller technique et producteur de ce film, est un très célèbre monsieur Thorne, astrophysicien spécialiste des trous de ver, qui ne sont pas exactement les trous noirs, parce qu'on a des grandes dissertations entre les trous verts, les vers, les vers, les petites bêtes, hein, pas vers, VRT. Bon, alors, c'est vrai que le tourisme spatial est quelquefois sidérant de beauté. Il avait déjà tourné en Islande. Il est retourné en Islande. C'est une planète qui pourrait nous être favorable, mais elle est très, très hostile. Et alors, là, il y a 10 minutes de beauté absolue des glaciers d'Islande. Enfin, un documentaire de 15 minutes sur les glaciers d'Islande,
on n'a pas besoin de 2h50.
Ça serait mieux qu'Interstellar.
Bon, allez, parce qu'on ne va pas faire l'émission sur ce film.
Oui, j'ai
Michel.
L'air de quoi moi, je veux dire...
T'as l'air de quelqu'un qui a aimé Interstellar.
Non, mais c'est l'assassinat du film qui me stupéfie, parce que, d'ailleurs, ça se passe presque régulièrement. Relisez les critiques, et je suis loin de
c'est
comparer.
C'est pas toi qui vas comparer ce film-là.
Non, relisez la moitié des grands journaux. Non, pas du tout. Relisez les grands journaux, les quotidiens, etc., il y a 46 ans sur l'Odyssée de l'espace, le flot d'insultes, de naïveté, films barbants, on s'ennuie, on quitte à l'entracte tellement c'est mauvais. Donc je ne veux pas du tout réhabiliter ici ce film que vous venez d'assassiner. D'une part, je ne suis pas du tout un fan de Christopher Nolan, parce que je pense que, d'abord, je n'avais rien compris à Inception, mais en même temps, ce que j'aime dans sa naïveté, parce qu'il y a un côté très naïf, et il y a aussi énormément de platitudes, de pseudo-philosophie, néanmoins, il y a une ambition qui, moi, m'intéresse. C'est-à-dire que je ne trouve pas stupide que les personnages, par exemple, ne vieillissent pas, que le personnage du cosmonaute ne vieillisse pas, et que sa fille soit beaucoup plus âgée que lui quand il revient sur Terre. Je ne trouve pas du tout, non plus, sans intérêt, d'avoir, par exemple, toute une chronique du Middle West qui évoque les raisins de la colère, c'est-à-dire la Terre est devenue un pays complètement
une
sécheresse, etc. Donc, c'est aussi un film sur la famille, c'est un film sur l'exploration. Le problème, c'est que tous ces cinéastes essayent de se déterminer justement par rapport à Kubrick. C'est-à-dire que Cuarón est mexicain, il fait un film ascétique, et que Christopher Nolan est anglais, il fait un film pachydermique. Ça, c'est même très intéressant culturellement parlant. On s'attendrait que l'anglais ait une certaine réserve et que le mexicain soit baroque. Pas du tout. Et c'est vrai que le film de Cuarón est un meilleur film. D'abord, il est fait sur, justement, le minimalisme, alors que celui-là est fait sur l'emphase. Mais néanmoins, moi, j'aime bien que... Alors, L'étoffe des héros, c'est une référence, c'est un film magnifique. J'aime bien l'esprit américain qui essaye de se lancer dans des films où il n'y a pas de dérision. Nous, on est les champions de la dérision du deuxième degré, de l'ironie, du cynisme. Je trouve assez beau cette entreprise avec des trous énormes, avec effectivement beaucoup de platitudes pseudo-philosophiques. Ça, c'est le défaut de Nolan. Mais en même temps, une tentative de faire quelque chose d'original.
Michel, tu es comme dans ce film, tu ne vieillis pas. C'est ça qui est bien. Des réactions, oui, sur Interstellar. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Il y a des choses qui m'ont gêné dans le film. Par exemple, le côté un peu ostensiblement malin ou la musique assourdissante, omniprésente. Mais en revanche, je trouve quand même excessivement sévère. Je trouve qu'il y a une profondeur dans certaines thématiques, comme la brièveté de la vie. Et je trouve aussi qu'il y a des pics d'émotion. Par exemple, quand Matthew McConaughey voit les images de son fils joué par Casey Affleck. Matthew McConaughey, je trouve d'ailleurs bouleversant dans le rôle. Et d'ailleurs, vous n'avez pas du tout parlé ni du jeu d'acteur, ni de la mise en scène. Et à propos de la mise en scène...
Vous avez vu le temps qu'on a passé sur ce film, déjà?
Oui, mais il ne faut pas parler que du scénario. Au cinéma, il y a aussi de la mise en scène des acteurs.
Et merci. On va le noter quelque part, ça peut nous servir.
Et au niveau de la mise en scène, je termine juste sur ça. Il y a la scène avec le personnage joué par Matt Damon, quand il meurt et que soudain le son s'arrête, c'est assez...
Ne dites pas que ça se passe dans l'espace, hein, ça va gâcher le film.
Merci pour votre intervention, c'est tout pour Interstellar. Une nouvelle amie de François Ozon commence par un enterrement. David, c'est Romain Duris, vient de perdre sa femme. Laura, c'est Gilles Lebesco, peu après la naissance de leur fille. Il va mal, hein, il est assez désespéré. Les semaines passent, et puis un jour, pendant son footing, dans des lieux un peu incertains, on a du mal à les définir. Claire, c'est Anaïs Dumoustier, qui est la meilleure amie de Laura, qui est mariée à Gilles, jouée par Raphaël Persona, entre sans prévenir dans la maison de David. Et là, bah, il y a un petit choc, puisque le jeune veuf, il est maquillé, il porte une perruque blonde et la robe de Laura, et puis il donne le biberon à son bébé. David explique très calmement à Claire que sa fille a besoin d'une maman, que d'ailleurs il a toujours aimé se travestir en femme, et qu'il se prénomme, pourquoi tu me regardes comme ça, Xavier ?
Parce que je bois tes paroles.
Désormais Virginia. Au début, bah Claire, elle est un peu choquée, et puis peu à peu, Virginia devient sa nouvelle amie. Ensemble, elles font du shopping, elles vont chanter du Nicole Croisi dans une boîte gay, partent en week-end, jusqu'au jour où Claire réalise, non sans un certain effroi, que Virginia est toujours un monsieur. Alors voilà, il y a beaucoup de clichés. Moi, j'ai rien contre les clichés, mais pourvu qu'ils soient un peu détournés. Là, tout m'a semblé très caricatural, mais comme je sais que vous pensez le contraire, je me permets de le dire avant. Michel Simon.
Moi, Ozon me comble presque tout le temps. Je trouve que c'est un cinéaste, un électron libre dans le cinéma français. Il fait toujours la surprise. Je pense qu'on est déterminé par son nom. Je pense que ça compte beaucoup, le nom qu'on a, le patronyme, parce que ça vous...
Il s'appelle Godard, en réalité.
Non, c'est vrai. Ozon, justement.
Je pense que le nom est vrai, est important.
Ah oui, je crois.
Pauvre Lelouch.
Quand on est Ozon, eh ben, on ose.
Alors, c'est pas un cinéaste de la petite cuillère non plus, hein, Lelouch.
Kubrick n'aurait rien dû faire. Hein.
Vas-y, Michel.
D'abord, je pense que c'est pas... Romain Duris, évidemment, est tout à fait remarquable dans ce rôle parce qu'il ne tombe jamais dans la caricature. Il y a une émotion qui... Ah non, je trouve pas du tout. C'est pas Tutsi, c'est pas Jack Lemmon.
Et
pas du tout. Non, parce que c'est un film, justement, qui mélange très adroitement, très sincèrement aussi, sans doute, l'émotion et le rire. C'est un film qui a des aspects, effectivement, de comédie. En même temps, c'est un mélodrame. Et que je pense que le personnage central, c'est Anaïs Desmoustiers, finalement. Parce que c'est à travers elle que tout le film évolue. C'est-à-dire, sur son visage, après Bird People, où elle était absolument extraordinaire, on peut lire sur le visage d'Anaïs Desmoustiers toutes les émotions, la surprise, l'effarement, et petit à petit...
Et après, la complicité.
Et petit à petit, la complicité, et finalement, l'amour, parce que c'est une grande histoire d'amour, justement, sur le rapport à l'autre et à la différence. Donc, moi, je trouve que c'est un film tout à fait remarquable, avec des choses qu'on n'a pas tellement vues déjà chez Ozon. Par exemple, il y a très peu de retours en arrière d'habitude. Ici, il y a des retours en arrière formidables. Il y a des séquences oniriques. C'est quelqu'un qui est constamment dans une invention et dans la direction d'acteur. J'ai trouvé absolument remarquable, y compris le personnage du mari, Raphaël Personnage, qui est un peu le cocu de cette histoire et qui a un rôle extrêmement difficile à jouer.
Si.
Et totalement... Si, et c'est consommé.
Mon projet, dit dans le dossier de presse François Ozon, est que chaque homme, en sortant de la projection, aille acheter des robes et du maquillage, non pour sa femme, mais pour lui. Est-ce que tu as fait ça, Michel ?
Non, alors là, c'est là où je ne suis pas tellement d'accord. Mais il faut faire confiance au film, pas au metteur en scène.
C'est une question. Daniel ?
Moi, j'ai été très déçue. Moi, je suis une grande fan de Ozon. Et je trouve qu'il a très souvent, pas toujours, parce que de temps en temps, dans le fantastique, il se risque un peu trop haut. Par exemple, Ricky était un peu raté. Mais il a très, très souvent vraiment le sens du trouble, des choses, de l'ambiguïté, avec beaucoup d'élégance et beaucoup d'émotion. Je pense évidemment au Temps qui reste, ou Sous le sable, ou même dans la maison, que j'aimais beaucoup.
Même Huit femmes était bien dans
un autre registre.
Oui,
mais
sauf que là, voilà, potiche aussi.
Et là,
ça me gêne.
Non, mais moi,
ce
qui me gêne dans ce film, c'est que je n'ai pas été troublée. Or, quand même, on attend le trouble, la sympathie, l'empathie, tout ce qu'on veut. Je trouve que ça démarrait très bien. C'est vrai que c'est dans l'émotion, que effectivement, ce bébé qui a besoin de retrouver l'odeur de sa mère, c'est très bien. Je me dis, ah bon, c'est merveilleusement parti. Et après, je n'ai pas arrêté de considérer que Romain Duris avait de très jolies jambes de femme, mais vraiment, mmh. en haut talon, j'ai les chevilles fines, tout ça. Je contemplais la performance.
Il s'épile très bien, il faut dire.
Je contemplais la performance. Alors, il se remet en garçon pour mettre du bois dans la cheminée. Je me suis dit, non, on ne va pas nous faire Conchita Wurst, quand même. L'émotion était complètement partie. Oui, parce que de temps en temps, il ne se rase pas.
Il fait un peu Conchita, hein, tu as raison. Ça, c'est
et
vrai.
Donc, et j'étais triste. Et j'étais triste parce que je trouvais que le thème était très intéressant, très libre, que effectivement Anaïs de Moustier est toujours effarée parce que tout de même
au début, dans tout le début,
je veux dire, elle est très étonnée, nous aussi, et je trouve que l'étonnement se tarit et que le trouble ne vient pas.
Éric,
ah bah il y a des jours où on se félicite de ne pas être veuf, parce que tu imagines. Tu rentres du cimetière, qu'est-ce que tu fais? Pof, tu mets des barésies et tu te barbouilles de rouge à lèvres. Ça, c'est un chapitre que n'avait pas prévu Laurence Pernoud pour élever les bébés. Parce que c'est hallucinant. La première fois qu'on voit Duris en travesti, il est de dos, il se retourne. Et là, c'est un choc parce qu'on est partagé entre le fou rire et l'incrédulité. Parce qu'on dirait Henri Salvador déguisé en Juanita Banana. C'est hallucinant. Et le film est une très très grande comédie, malgré lui. C'est dingue, là. Tout est drôle, tout est à côté de la plaque. On devient femme, alors c'est peut-être un très beau projet, mais alors qu'est-ce qu'on fait quand on est une femme? On va faire du shopping et on piapiate avec sa copine. Il se fait vraiment une belle idée des femmes, osons. Et les boîtes homosexuelles, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'extasient pendant toute la chanson sur un transformiste qui chante « Femme » de Nicole Croisi. Vous savez, la chanson... Oui, enfin, il était gay comme un Italien quand il sait qu'il aura de l'amour et du vin. On a la chanson intégralement, avec tout le public en larmes, et on se la retape une deuxième fois dans des circonstances que je ne raconterai pas, a cappella par Anaïs de Moustier. Je trouve que le film manque vraiment d'une subtilité, d'une
légèreté. Il n'est pas dans la nuance.
Et c'est vraiment un film hors sol. On ne sait pas où ça se passe, dans une banlieue indéterminée.
On dirait une banlieue, oui, même un peu américaine.
Et le malheureux Duris, alors il a beau être marié et avoir un enfant, il n'a pas d'amis, il n'a pas de famille, personne ne l'entoure, personne ne vient voir. Et ça ne marche pas du tout. Et comme Ozon n'est pas un imbécile, mais qu'il est très snob, quand David devient une femme, il s'appelle Virginia.
Pourquoi Virginia il serait Wolf, snob
il va pas s'appeler
pourquoi il est snob,
Anna comme Gavalda. C'est ça. La défunte s'appelle Laura, comme chez Preminger, mais à aucun moment on a envie de faire la comparaison.
Xavier,
d'abord, les références sont assumées. Moi, je suis entièrement d'accord avec Michel. C'est qu'on n'a pas vu le même film. Je trouve que c'est un film où le trouble existe, mais sauf qu'il n'est pas sur le personnage que l'on croit être le personnage principal, qu'il n'est pas du tout Romain Duris. Romain Duris est accompli. Il s'habille en femme. Il n'est pas homosexuel. Il est un hétérosexuel qui aime les femmes, qui porte leur habit, qui porte leur perruque, qui fétichise sur le corps des femmes et sur leur apparence. Mais il n'a pas de voyage à faire au terme, comme disent les Anglais, de journée. C'est elle qui va s'accomplir. C'est elle qui se révèle. C'est elle qui applaudit dans le barguer pendant que le travesti chante « Femme, je suis enfin devenue femme », c'est exactement ce qu'elle est en train de faire. D'ailleurs, il y a une scène très jolie où elle jouit avant Raphaël Personnas. Pas beaucoup de films, les femmes jouissent avant que les mecs finissent leur petit travail. Je trouve que c'est... Tu ne connais pas le vieux proverbe chinois ? L'eau met longtemps à bouillir sur la bougie, mais l'eau éteint très rapidement la bougie. Voilà. Réfléchis un tout petit peu à ça et...
Je comprends que Zuckerberg apprenne le chinois. Hein.
Ouais, et ben...
Non, mais Xavier revient de Hong Kong.
Je comprends mieux vos épouses, quand même. Et je trouve que c'est un
film... Ça, t'aimes leur phrase, hein, parce que...
C'est un film extrêmement malin, extrêmement subtil. Les banlieues américaines, c'est clairement ironique, c'est Desperate Housewives, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe derrière les rideaux de ces petites banlieues ripollinisées, bien propres sur elles. Je trouve que tout est déplacé sur Anaïs de Moustier, qui vraiment, d'abord, est une actrice formidable, et à qui Ozon donne une partition très subtile, justement, sur la révélation d'elle-même. C'est elle constamment sur lequel le centre de gravité de la mise en scène vraiment est déplacé. Elle est l'élément moteur, c'est bouleversant. Elle va même d'ailleurs habiller à un moment Romain Duris en Laura. Laura, Yvonne Lebesco, qu'elle a enterrée. Parce que clairement, de toute façon, il y a deux triangles amoureux.
Dans un cercueil blanc.
Oui, il y a deux triangles amoureux. C'est-à-dire Raphaël Personnage, Romain Duris et Anaïs de Moustier. Et puis à l'autre, celui avec l'absente, la morte, qu'elle a aimée tendrement, dont elle n'a peut-être jamais assumé complètement l'amour fusionnel qu'elle avait pour elle. Et je trouve que sur ces deux triangles-là, il y a un trouble, il y a une force, il y a une puissance, il y a une ironie, il y a un côté telenovelas de temps en temps dans la mise en scène qui se termine par des regards un peu effarés, comme ça, des bouches entrouvertes. Et toute l'ironie d'Ozon est là, et en même temps, elle n'est jamais au mauvais endroit pour vraiment raconter son histoire. Moi, je sais pas. Moi, c'est un film vraiment qui m'émeut, qui me bouleverse, qui me touche et qui ne confond pas les choses.
C'est notre droit aussi de ne pas l'être.
Mais tout à fait. Mais je le défends et j'ai voilà.
Une nouvelle amie, François Ozon. Encore une réaction. Oui, deux réactions. On va peut-être prendre d'abord Madame en haut du studio, Sacha Guitry, et après on va revenir vers vous. Bonsoir.
Bonsoir. Alors moi, je suis de l'avis de Jérôme Garcin et d'Éric Neuhoff, c'est-à-dire que j'ai détesté ce film parce que je trouve que c'est d'une démagogie à parler de la théorie du genre, mais c'est minable, quoi. Et Romain Duris, il est archi mauvais et pas du tout crédible. Donc je déconseille fortement d'aller voir le film. Je trouve que c'est honteux, quoi. Et osons, carrément, pour moi, c'est un imposteur.
Eh bien, au moins, voilà une intervention. Ah, attendez, en haut, encore une intervention, peut-être, avant que le micro ne redescende. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir. Ozon change de style à chaque film. Là, je trouve que c'est un conte et une fable. Je trouve effectivement qu'Anaïs de Moustier passe d'une oie blanche, disons, à une vraie femme. C'est par rapport à elle que ça se passe. Duris est absolument remarquable. Ah, effectivement, j'ai remarqué comme vous, il avait de très belles jambes. Voilà, je trouve que c'est un très bon film, c'est une très belle fable, c'est un très beau conte. Et je trouve ce film tout à fait étonnant et tout à fait juste. Et il désamorce les clichés, contrairement à ce que vous dites. Voilà. Et je le répète, je n'aime pas toujours les films d'Ozon. Hein, il est comme Woody Allen, il en fait quasiment un tous les ans. Mais celui-là, je le trouve tout à fait étonnant.
Voilà, une dernière intervention qui sera brève, s'il vous plaît, parce que sinon, nous ferons l'émission sur une toute petite poignée de films et ce serait dommage.
Mais le film, je peux être tout d'accord avec Xavier Lerper, je trouve que c'est du cinéma toc, bourgeois, pseudo-scandaleux, qui sonne faux, mal écrit. Raphaël Personnaz, je trouve complètement insipide. Il fait 5 films par an, c'est pas à moi qu'il faut demander pourquoi. Et il y a juste une réplique que je retiens. Attention, les garçons naissent dans les choux, les filles dans les fleurs, et moi, je suis un chou-fleur. Mais vraiment, c'est la seule chose.
Merci pour cette intervention. La prochaine fois, je viserai le cœur. Un film de Cédric Anger avec Guillaume Canet et Anna Girardot. Et Guillaume Canet, c'est Franck, un personnage inspiré. Ça, tout le monde l'a oublié. Par Alain Lamarre, à la fin des années 70, ce gendarme modèle du peloton de Chantilly était plus schizophrène que Jekyll et Hyde, puisqu'il volait des voitures volées, tuait sauvagement des jeunes filles qu'il prenait en stop, après quoi il rangeait son blouson, remettait l'uniforme protecteur et rassurant de la gendarmerie. Mieux, il enquêtait sur ses propres crimes et tendait des pièges à celui qu'il appelait ce salaud de tueur. C'est tout juste, il ne rêvait pas de le coffrer lui-même, jusqu'au jour où il fut confondu par les lettres qu'il écrivait et qu'il a été arrêté. Bref, dans le rôle de ce Lamarre, qui se prénomme Franck, encore une fois, dans le film, Guillaume Canet atteint lui aussi, je trouve, le sommet de la schizophrénie, parce qu'on a du mal à reconnaître le cavalier de Japloux, le réalisateur des Petits Mouchoirs, surtout, tellement dans ce film, il est imperturbable, secret, glacial, à la limite d'un gabin jeune, et tout ça dans une lumière très expressionniste. Vraiment, moi, il m'a, je le dis rarement de ce comédien-là, impressionné dans La prochaine fois, je viserai le cœur. Daniel.
Oui, ça, c'est vrai. Déjà, le dispositif du film est quand même assez passionnant. C'est-à-dire, c'est pas un suspense. On est dans la tête du tueur. Et c'est le point de vue du tueur. Et ça, je trouve que déjà, on est quand même embarqué.
D'autant que la scène du début, elle fait battre le cœur. Hein.
Voilà. Et donc, on ne quitte pas ce film. Je trouve qu'on est vraiment emmené. Et c'est vrai que le côté totalement imperturbable de ce tueur est quelquefois un tout petit peu lassant. Je veux dire, il est quand même très mono.
Oui, mais bon, c'est la fonction, d'accord, si j'ose dire.
Mais le personnage, ce qui est vraiment assez fascinant et troublant, c'est à quel point il n'aime pas ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il a cette pulsion d'attaquer les jeunes filles, les autostoppeuses, les petites jeunes filles en vélomoteur sur les routes. Et dès que cette pulsion de crime le saisit, il trouve ça absolument dégoûtant.
Oui, il souffre de faire souffrir. Hein.
Il trouve vraiment le personnage qu'il est lorsqu'il est le tueur absolument dégoûtant. Et ce qui est très, très bien fait, je trouve, c'est le costume. C'est-à-dire, il s'habille en tueur. Il a toujours le même blouson lorsqu'il est un tueur. Et il se dépouille de son crime en remettant l'uniforme de la loi. Donc, la théorie du film, je la trouve vraiment assez remarquable. Bon, après, voilà, on est dans l'admiration de ce que peut être effectivement Guillaume Canet, parce qu'on n'a pas du tout cette image de lui.
Hein, on l'avait un peu dans le dernier Téchinet.
Oui, un peu. Vous l'avez, un peu. Oui, un petit peu. Mais là, lui-même est un autre personnage. Et il y a quelques scènes quand même assez formidables dans le film, quand il va lui-même...
Lui-même montrer le portrait robot de lui-même.
De lui-même à des gens qui disent... Oui. Oh, mais c'est horrible, j'ai l'impression que le gendarme ressemble au portrait robot. Et donc, je veux dire, c'est un film habile, très, très, très bien fait, qui parle un grand chef-d'œuvre, mais qui est quand même assez, assez scotchant.
Michel ?
Non, moi, je n'ai pas compris l'enthousiasme de la presse. Je trouve que c'est un film très appliqué.
Il n'y a
pratiquement pas un seul mauvais article. Tout le monde est heureux de dire du bien de Guillaume Canet, qui était régulièrement maltraité. C'est vrai qu'il casse, avec le film de Téchiné, puis celui-ci, il casse son image de gendre idéal, ça, c'est incontestable. Mais c'est à peu près la seule qualité de ce film, que je trouve comme une sorte de procès-verbal. On n'est pas chez Melville ou chez Bresson. C'est un film extrêmement appliqué. C'est-à-dire que la musique, par exemple, terriblement répétitive. La photographie est constamment comme ça, une sorte d'unification des couleurs. Il y a tellement de très grands films sur les tueurs en série. Rappelez-vous Roberto Succo, rappelez-vous Les Tueurs de la Lune de Miel, rappelez-vous L'Étrangleur de Boston. On est à un niveau vraiment extraordinairement bas par rapport à ce que le genre peut donner. Et je trouve sur cette double personnage, il n'y a pas un approfondissement. Je n'ai pas vu de progression dans la psychologie du personnage.
Éric ?
Ah non, il y a quelque chose hein, dans ce film. C'est un peu comme le titre. La prochaine fois, je viserai le cœur. C'est un film tendu qui va droit au but. Et c'est le meilleur rôle de Guillaume Canet qui a effectivement un physique de portrait robot dans tous ses films. Et ça rajoute à la crédibilité de toute cette histoire. Ce type qui n'existe que quand il met un uniforme, que ce soit celui de tueur ou l'uniforme bleu de gendarme. Et c'est un film qui ressemble à ces dessins où on doit chercher le chasseur dans les branches de l'arbre. Et là, on ne le trouve pas, évidemment, puisque c'est l'enquêteur lui-même. Et on voit aussi toute la solitude, la frustration de ce gars-là. C'est un pauvre mec et on ne saura jamais pourquoi il tue, pourquoi il est gendarme.
Avec un rapport étrange à la
très,
nature.
Très étrange, ouais.
Il emmène ses collègues un cerf dans une forêt en pleine
nuit. Oui,
il serait peut-être intéressant de le savoir. Le rôle d'un artiste, c'est justement d'éclairer.
Le rôle de l'artiste, c'est de nous faire
mieux comprendre ces personnages.
Moi, ça m'a rappelé la phrase de Bernanos, la médiocrité est trop compliquée pour nous. Et effectivement, dans cette campagne toujours pluvieuse, un peu grise, poisseuse et humide, il y a un monstre qui ressemble à vous et moi. Et ça, j'ai trouvé ça très, très troublant.
Qui ressemble même à la loi.
Xavier ?
Je suis entièrement d'accord avec Michel. Enfin, je veux dire, sur un sujet pareil, on rêverait d'avoir de sang-froid, de Truman Capote, c'est-à-dire quelque chose qui prenne un peu de distance, qui prenne un peu d'ampleur.
C'était un livre. Hein.
C'était quand même une étude artistique à partir d'un fait divers. Excuse-moi, je sais que c'était un livre, je ne suis pas totalement idiot non plus. Et là, j'ai quand même l'impression d'avoir écouté Europe 1 il y a 40 ans en écoutant Pierre Bellemare. C'est-à-dire que c'est une reconstitution hyper fidèle, hyper précise, hyper répétitive. Michel a raison. C'est un procès verbal pendant une heure et demie et où tout le monde a la gueule de l'emploi, le décor a la gueule de l'emploi, l'intempérie a la gueule de l'emploi, il ne peut que pleuvoir, il a la gueule de l'emploi, il s'habille en tueur effectivement, il va sortir une fille qui a la gueule de l'emploi, elle s'habille en mal baisée, donc ça se voit tout de suite, tout est au premier degré, il l'emmène dans un restaurant, j'avais l'impression d'être dans un restaurant de serial killer, c'est-à-dire qu'elle va être marquée au-dessus, attention ici, restaurant de serial killer, le truc vous restez pas à dominer, et je me disais mais à quel moment est-ce qu'il prend un peu de distance, le mec il tue trois fois,
non,
Non, attendez, vous foutez de ma gueule trois fois.
Non, il les rate, les autres.
Il les tue, il ouvre la portière, il les balance, il se flagelle, il voit des lombrics, il recommence. Et au bout d'un moment, on a compris.
Il voit pas des lombrics. Non,
au cas où une subtilité là-dedans vous aurait échappé, il emmène son petit frère chasser parce que c'est un prédateur, bien sûr. Il y a un moment, sur un sujet pareil, le cinéaste qui arrive avec un stabilo et qui surligne tout ce qui est déjà évident.
Parce que tu viens de dire sur le Ozon, tu dis ça, toi.
Eh bien, je suis désolé.
Parce que s'il y a bien un film stabiloté, c'est bien le.
Mais je pourrais te dire la même chose, cher Jérôme. Après ce que tu as dit sur Ozon, tu aimes le Cédric Angers ? Moi, j'ai vraiment l'impression, là, qu'on me martèle un truc qui est évident dès la première seconde. Et Guillaume Canet, j'ai rien contre lui. Mais à part des prothèses dans les mandibules pour avoir la gueule plus carnassier, vous trouvez que l'interprétation, elle est géniale. Beaucoup plus troublante chez Téchiné, justement, où il avait quelque chose à jouer, au moins une variation. Là, moi, je croise le type dans la rue, comme il ne se promène que la nuit sous les réverbères, mais je pars en courant. Je lui donne pas l'heure.
Oui, d'accord. Quoique, oui.
Et je n'ai rien dit sur les lieux dragués où ils vont à un moment, qui sont des caricatures qu'on ne devrait plus voir en 2014.
C'est marrant comme les avis sont vraiment divergents ce soir. La prochaine fois, je viserai le cœur, le film de Cédric Angers. Oui, une réaction tout en haut du studio. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir. Très rapidement, je crois que c'est quand même un film à voir. Je me souviens très bien de ce fait divers. Et de mémoire, Le Figaro avait écrit un excellent article. Et au bout d'un temps, le colonel ou le lieutenant-colonel, qui était le commandant du groupement de gendarmerie, avait commencé à comprendre que le coupable était forcément quelqu'un des forces de l'ordre. Alors, j'ai entendu ce que disait M. Michel Simon à l'instant. On a en mémoire des livres et des films où, effectivement, c'est le policier, l'enquêteur qui est le coupable. Compartiment tueur de Sébastien Japrisot, Les yeux de Laura Mars, par exemple. L'idée du portrait robot, on l'a aussi, souvenez-vous, dans Police Python 357. C'est une idée qui est reprise de ce film avec Yves Montand. Mais je crois que c'est un film remarquable parce qu'il replace cet épisode, ce drame, dans la réalité de l'époque, c'est-à-dire la fin des années 70. D'ailleurs, les uniformes des gendarmes sont ceux que des années 70.
Bon, ça, c'est bien
ne, loupez pas, ne loupez pas ce film, parce que ça fait réfléchir à la nature humaine aussi.
Merci.
À voir.
Merci pour votre intervention. Marie Hortin de Jean-Pierre Améris, on est à la fin du 19e siècle, dans le couvent Poitevin des Filles de la Sagesse. Vous devrez aller, Xavier, l'Institut de l'Arvet, dont la mère supérieure est jouée par Brigitte Catillon. Sœur Marguerite, c'est Isabelle Carré, se consacre entièrement à sauver Marie Hortin, celle qu'elle appelle une âme emprisonnée, est une enfant sauvage, même très sauvage, et un petit monstre furieux d'une dizaine d'années, totalement coupée du monde, qui est sourde, aveugle et muette de naissance, et qui est incarnée ici par Ariana Rivoire, qui, elle, est réellement sourde. Avec une patience d'ange, c'est le cas de le dire, Sœur Marguerite apprend à Marie Hortin à communiquer non seulement avec les siens, mais aussi, ça te ferait du bien, Xavier, avec le ciel. Histoire totalement authentique, Améris y a ajouté son souvenir, dit-il dans le dossier de presse, très fort, du film d'Arthur Penn, Miracle en Alabama, l'histoire, vous savez, de cette jeune américaine sourde et aveugle, sauvée par sa gouvernante. Il y a de temps en temps des belles scènes, je trouve que les retrouvailles, par exemple, avec les parents paysans de Marie Hortin étaient assez belles. Alors, il y a aussi, il faut dire la vérité, une fin très, qu'on ne m'a pas racontée, très grandiloquente, un peu édifiante. En même temps, je suis pour les temps en temps, les fins de films édifiantes. Xavier.
Décidément, ce soir, je vais m'acharner. J'ai rien contre ce film qui essaye le plus
bien
souvent possible
des robes,
d'être gentil. Mais le problème, c'est que je me demande si c'était vraiment l'axe avec lequel il fallait aborder cette histoire. C'est-à-dire que le film est constamment joli et cherche constamment à être dans la joliesse, dans la gentillesse, comme ça. Or, moi, j'aimerais ressentir que ressent cette gamine qui est complètement isolée, qui est coupée du monde à une époque où, effectivement...
Qui est assez impressionnante.
Qui est formidable, fois, on est bien d'accord. Mais même quand elle est en enfant sauvage, elle est en joli enfant sauvage. C'est-à-dire que si... Il y a quand même toujours quelque chose, voilà. C'est, tout ça est plein de tendresse. Ça ressemble à Jean-Pierre Améris, qui est un cinéaste assez gentil, assez souple comme ça. Mais moi, il me manque vraiment une aspérité, il me manque une alacrité, il me manque quelque chose dans ce film-là. On est toujours à la recherche de la petite scène de comédie, la première fois qu'elle arrive et qu'elle ravage le petit potager dans lequel travaille la bonne sœur, et puis ensuite elle monte à l'arbre et tout ça. Et Brigitte Catillon qui arrive. Alors Brigitte Catillon, géniale, formidable comme d'habitude.
Très bien.
Et qui dit bon, alors faudrait la faire descendre maintenant et tout. Et on voit la pauvre sœur qui monte comme ça, qui la récupère et qui finit par se vautrer. Et on voit la pauvre Isabelle Carré qui fait semblant de tenir les côtes en disant « ouïouïouïouïouïouïouï ». On cherche constamment un petit élément de comédie pour arrondir les... Il y a toujours aussi une petite lumière magnifique dans laquelle termine Isabelle Carré. Son déplacement se termine toujours comme une halo qui la sanctifie. On sent qu'elle est en train d'avoir la révélation. Ouais, c'est joli, mais on dirait la petite maison dans la prairie, quoi.
Éric.
Et il faudrait faire des exercices respiratoires avant d'aller voir ça, parce qu'on a tout le temps envie de souffler sur l'écran tellement c'est poussiéreux, c'est effrayant. J'ai jamais vu un film d'une telle fadeur, je sais pas où ils ont trouvé ça, dans des tiroirs de l'ORTF. Rien n'est bien, rien n'est intéressant, j'ai trouvé ça démodé, académique, à peine joué, et aucune scène ne m'a touché. C'est ni L'Enfant Sauvage, ni, qui n'est pas pourtant le meilleur film de Truffaut, ni Miracle en Alabama. Quant au mouvement de caméra qui s'élève vers le ciel, c'est d'une lourdeur pathétique.
Daniel.
Non, franchement, bon, bien sûr, c'est édifiant, mais c'est aussi touchant. Voilà, il faut se laisser embarquer dans cette histoire qui est édifiante et touchante. Voilà. Alors, moi, j'ai été assez bouleversée par Ariana Rivoire, ah oui. Par cette jeune fille.
J'ai été impressionnée par cette.
Ah, mais vraiment, bon, elle est sourde.
Rivoire et Carré sont très bien.
Oui.
Oh non.
Non, mais Jérôme, tu peux pas concéder ça, t'es mort de rire, enfin.
Qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Oui, oh.
Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le battre?
Non, il a attendu. En plus, c'est... Mais vraiment,
mais j'y avais
c'est...
pas pensé avant, je m'en veux.
Non, mais attends, t'as juste attendu que je reprenne mon souffle et paf.
C'est vrai qu'on ne parlera pas des autres films.
Mais ah parce non, que... non, mais attends. Mais
tu es une bonne patte, c'est pour ça,
ah
Daniel.
Non, non, c'est épouvantable. Bon, alors donc, je disais que cette jeune sourde est une comédienne extraordinaire. Voilà, elle est absolument bouleversante. Simplement, c'est très, très difficile d'apprendre à communiquer à une jeune fille qui est à la fois sourde et aveugle. Et donc, il faut beaucoup, beaucoup de patience à Isabelle Carré. Et de temps en temps, la patience diminue un petit peu. Voilà.
Michel.
Moi, j'aime bien ce film. Enfin, j'aime bien le travail d'Améris, qui est toujours intéressé par les exclus, par l'anormalité.
L'homme qui rit.
Les émotifs anonymes, l'homme qui rit, c'est la vie, etc.
C'est un cinéaste empathique.
Et,
voilà,
et en plus, je trouve le thème est très beau, puisque la sœur Marguerite, elle va vers la mort, elle est condamnée, donc elle va mourir, et elle ramène à la vie.
Mais ne raconte pas, ne raconte bah, pas
non,
ça.
Bah, enfin, ah, non, enfin,
c'est dit tout de suite, là.
Non.
Mais si, Brigitte Catillon lui dit, comment allez-vous ce matin?
Elle va vers la mort, elle ramène à la vie quelqu'un. Je trouve les interprètes sont absolument remarquable, et je trouve que le film a beaucoup de sensibilité. Voilà. Il n'a pas même à peindre la communauté religieuse, parce que ce n'est pas les anges du péché, ce n'est pas Dialogue de Carmélite. On est chez les religieuses, mais ce que le film nous dit est suffisamment proche de l'idéal des religieux qu'on n'a pas à parler des bonnes sœurs. On est en train de parler d'un film qui fait confiance à la connaissance et qui fait confiance à l'amour. Alors évidemment, c'est des valeurs qui sont peut-être complètement dérisoires aujourd'hui. Je trouve le film touchant. Oui. Touchant et bien dirigé.
Marie Hurtin, Jean-Pierre Améris, et on retrouve vite Isabelle Carré, non plus dans un rôle de sœur, mais dans un rôle de mère. C'est Respire, le deuxième film après Les Adoptés de Mélanie Laurent, avec également Joséphine Japy et Lou Delage, un film qui a été présenté à Cannes à la Semaine de la Critique, dont je crois d'ailleurs Xavier est un des sélectionneurs, non?
Pas cette année, sinon je peux te dire qu'il n'y aurait pas été.
L'actrice.
Voilà.
L'actrice.
Vous voulez que je sois méchant et pas corporatiste, c'est fait.
A choisi d'adapter, mais aussi d'adopter le premier roman d'Anne-Sophie Bram, qui avait 17 ans lorsqu'elle l'a publié. C'était en 2001. L'histoire d'une relation tordue, je crois que le mot est assez faible, entre deux adolescentes, Sarah et Charlie, la dominante et la dominée, la conquérante et la timide, la perverse narcissique et sa victime. Alors, j'ai trouvé ça un peu scolaire, effectivement, comme film. Rapidement, Michel.
Oui, pas grand-chose à dire. C'est un film qui est plein de clichés psychologiques sur ce rapport maître-esclave. On a vu même récemment ce film kazakh extraordinaire d'Harmony Lesson.
Ah, qui était...
Voilà, ou Les désarrois de l'électeur. Enfin, c'est un thème... Mais là, ça manque totalement de... Je trouve très bon les comédiennes. Je trouve vraiment Joséphine Delage et Lou Delage sont absolument remarquables. Mais le reste du film me paraît un peu mou, manquant de direction. Sans doute meilleur que son premier film, mais enfin...
Presque dithyrambique, hein.
Oui, presque dithyrambique aussi.
Daniel.
Oui, moi, j'ai été assez touchée par les actrices. Un film d'actrices qui donne à manger aux actrices. Donc, effectivement, et Lou Delage et Joséphine Japy sont vraiment agréables à voir, à entendre, à regarder.
Oui, elles font le job.
Elles font le job, et le job est quand même assez conventionnel.
Xavier.
C'est sommaire, c'est quand même très très binaire. Il y a un moment, on a bien compris qui était la victime, qui était la femme toxique, où est-ce qu'on allait aller. Et en plus, au cas où on n'aurait pas compris, ce qui est déjà pourtant pas subtilement amené à l'écran, on a régulièrement des scènes qui nous expliquent. C'est un film pour mal comprenants. C'est-à-dire que moi j'aime bien. Non mais attendez, riez pas, ça peut être vraiment vraiment utile. C'est-à-dire qu'au début du film, première scène, leçon de philosophie, la passion, l'excès de la passion est-elle une entrave ou au contraire. Offre-t-elle, ouvre-t-elle encore plus de liberté? Il y a peut-être un indice dans ce qui va se passer plus tard. Une demi-heure après, elles sont en cours de botanique. Là, c'est le moment où l'amitié commence à devenir effectivement perverse. Qu'est-ce qu'elles regardent? Un film sur les plans carnassières qui enserre la pauvre petite fougère qui va mourir étouffée. Je crois qu'on avait un petit peu compris à ce niveau-là, chère Mélanie, quand même. Et régulièrement, elle s'est obligée de nous mettre des scènes hyper explicatives sur un film qui est déjà quand même dessiné à la truelle en termes de psychologie. Donc du coup, il y a un moment, bah, respire, ouais, mais laisse-nous un peu de souffle, quoi, parce qu'elle n'en a pas du tout, du tout.
Éric.
Pour un film d'actrice, c'est pas déshonorant, mais il n'y a rien d'autre à en dire. C'est...
Eh bien, bonsoir. Oula, bonsoir, Mélanie Laurent. C'était donc Respire. Votre film qui vient de passer au Masque et la Plume. Et on termine, sinon Michel Simon va me gronder avec le film qu'il voulait absolument que j'inscrive, qui est Quand vient la nuit avec Ben Affleck. Après Ben Affleck, Clint Eastwood, Scorsese, Denis Lehane inspire donc cette fois Michael Roskam, dont on avait tous ici beaucoup aimé, c'est vrai, Bullhead, à qui...
Donc maintenant, Hollywood fait les yeux doux. Quand vient la nuit, donc, à ce scénario signé Denis Lehane, qui en a tiré aussi une novélisation qu'on peut lire chez Rivage, je vais vite, l'histoire d'un barman, Bob, cet homme hardi qui travaille dans le bistrot de son cousin, James Gandolfini, un bistrot qui sert de caisse dépôt à la mafia tchétchène de Boston. Et puis Bob va ramasser un pitbull blessé. Il ne faut jamais faire ça, d'ailleurs, jamais ramasser, je vous le dis, dans la poubelle de Naomi Rapace, dont la gorge est barrée d'une grande cicatrice et dont l'ex n'est pas vraiment à tendre. L'ex, c'est Matthias Schoenaerts. Bon, je ne vais pas vous raconter la fin, simplement, sinon pour vous dire que c'est le dernier film, Paix à son âme, de James Gandolfini. Michel, tu l'aimes beaucoup, ce film, je sais.
J'aime beaucoup ce film, mais justement, on pourrait faire une comparaison avec La prochaine fois, je viserai le cœur, parce qu'il a toutes les qualités qui manquent à l'autre film.
C'est-à-dire
que
rien à
voir. Si, ce sont des films criminels, ça appartient à un genre qui est le film criminel. Là, les personnages sont formidablement campés, il en a 4 ou 5 qui sont tous formidablement analysés, montrés. C'est un film aussi où l'intrigue passe après la peinture de ces personnages, avec des incidents dans leur vie qui, sans arrêt, on est surpris par le déroulement du récit. Le rapport à ce chien, qui est comme le rapport au bovin dans le premier film, je trouve que c'est un exemple extraordinaire d'un cinéaste européen qui va en Amérique, qui retrouve tout son territoire. Le Brooklyn ressemble à la Flandre, d'une certaine façon. On boit de l'Amstel, il y a des bars enfumés. Et puis, il y a tous les thèmes du film noir que j'adore, l'importance du passé, la femme que deux hommes se disputent, et avec cet élément, encore une fois, supplémentaire, mais Daniel en parlera mieux que moi, qui est ce pitbull qui joue un rôle essentiel que je ne raconterai pas. Voilà, donc je trouve que c'est un film... Alors, j'ai lu quelque part, on a déjà vu ça, mais enfin, je veux dire, tous les films qui passent sur le câble tous les soirs de 1947-48, tous les grands films noirs américains, ils n'arrêtent pas de traiter des mêmes thèmes. Je veux dire, c'est la façon dont c'est fait. C'est admirablement interprété, admirablement photographié, admirablement raconté.
Et ça fait la une de positif, vous l'aviez compris.
Oui, mais je trouve que ce film n'a pas l'accueil qu'il mérite.
Je précise, Michel, ne t'énerve pas. Daniel, en quelques mots...
Ce chien... Mais j'adhère totalement à ce qu'a dit Michel, c'est un vrai film noir bien serré, un bon petit noir bien serré. Et puis, je veux dire, voilà, je suis totalement... je suis complètement...
Chien,
mais non, mais en plus, enfin, qui me tire des larmes. Le dernier film de James Gandolfini, ça me tire des larmes. Vraiment, il est magnifique. Et puis, voilà, un petit
chien,
un poudre dans une... poubelle.
Trop mignon.
Non, mais je veux dire, c'est un personnage principal.
Je montre le chien à la caméra parce que...
Non, c'est un film vraiment, et c'est vrai que voilà, c'est pas du tout une caricature de film noir américain, c'est vraiment une adaptation d'un Européen dans ce milieu-là, et c'est vraiment formidable.
Éric ?
Je défie quiconque de deviner que ça a été réalisé par un Belge en voyant le film sans le nom sur l'affiche. C'est formidable. On a l'impression de voir un nouveau film de James Gray.
Les Belges apprécieront.
Mais non, mais attends.
C'est raison.
Le type, je ne sais pas si c'est parce que son gouvernement n'arrivait pas à se former pendant des années. Et il a dit, bon, moi, je vais aux États-Unis et je fais un vrai polar américain qui se passe à Brooklyn avec l'innocence perdue, les générations, la transmission, la violence, le côté nocturne, l'ambiance de bar qui donne envie à la fin de dire à Roskam, remettez-nous ça.
Xavier.
Voilà, tout a été dit, je crois que c'est pas la peine d'en rajouter, c'est vraiment un film extrêmement réussi, et au contraire des films dont on a parlé ce soir par exemple, lui il lutte contre les évidences, au contraire, il y a vraiment un plaisir d'aller contre les choses qui sautent aux yeux. Faire de Tom Hardy un barman introverti, replié sur lui-même, hyper discret, alors que le mec est une bête de muscle et qu'il est carré comme un joueur de rugby, c'est autrement plus intéressant, plus audacieux et plus subtil que tout ce qu'on a vu de premier degré ce soir.
Il y a un vrai suspense dans le récit,
c'est extrêmement bien écrit, mais en plus il y a constamment, plutôt que de distribuer au premier degré les acteurs et les actrices, il y a toujours ce jeu du contre-emploi qui sert magnifiquement,
et
effectivement.
Elle est tellement mignon.
Ouais, c'est un pitbull. Oui.
Quand vient la nuit, donc conseillé par La Tribune, le film du Belge d'Hollywood, c'est vrai que c'est assez chic, le Belge d'Hollywood, Michael R. Roskam. Allez, on a le temps pour les conseils. On va commencer avec Daniel.
Alors, un film de Ira Sachs qui s'appelle Love is Strange et qui est une...
Qui est émouvant.
Et qui est très émouvant.
Oui.
Un vieux couple de messieurs qui vont se marier. Ils sont très heureux, tout va bien. Et dès qu'ils se marient, la communauté qui avait l'air de les accepter les rejette, il perd son job. Et je veux dire, c'est traité avec une pudeur, une délicatesse.
Et ils sont très bien.
Et ils sont magnifiques, Alfred Molina et John Lithgow. C'est un très joli film, très joli film. Et je peux rajouter
encore
un coup de cœur.
Bien sûr, bien sûr.
Alors, mon coup de cœur, c'est un livre. Ça s'appelle « Le cinéma au partage » d'un certain Michel Simon.
Que j'ai conseillé il y a 15 jours.
Ah ben, je le reconseille.
Ah, mais tu as raison.
Je le reconseille. Il y a un DVD en prix.
Il y a un DVD qui est le film sur Michel.
Voilà, c'est des entretiens avec Anne Thébine.
Absolument.
Et c'est vraiment la mémoire la plus riche et la plus bienveillante sur le cinéma que j'ai jamais lue depuis très, très longtemps. Voilà.
Sans compter qu'il y a des aventures à l'intérieur absolument passionnantes.
Voilà.
Et effectivement, et le DVD sur le film.
Je ne l'aurais pas dit si Michel Simon était là, mais comme il n'est pas là. Oh, pardon, Michel.
Je l'ai déjà fait. La semaine, il y a 15 jours, avec les mêmes dithyrambes. Michel Simon.
Alors, oui, j'ajouterais que John Lithgow, qui joue le musicien dans ce film, je crois que c'est lui qui joue le musicien.
Non, il joue le peintre.
Non, il joue le peintre, pardon. Il joue le peintre. Il est le grand-père dans Interstellar. Hommage à John Lithgow, très grand acteur. Donc, évidemment, ce film Love is Strange est superbe, très émouvant, remarquable. Mais je recommanderais en DVD le dernier coffret, le troisième coffret de Arte, des comédies SNA de Charlie Chaplin, puisqu'ils ont fait tous les films de Chaplin jusqu'en 1917. Et c'est un recueil de courts-métrages absolument extraordinaire, totalement restauré. Donc, SNA chez Arte, très très beau coffret.
J'avais deux conseils à moi. Est-ce que quelqu'un va conseiller le film de Julie Young? Non, le A Girl at My Door? Non,
non.
Aucun de vous, que je trouve très, très juste, sur une sud-coréenne, là, je parle de la réalisatrice, histoire d'une jeune lieutenant de police contrainte de quitter Séoul pour diriger un commissariat dans un petit port côtier parce que ses supérieurs lui reprochent d'être homosexuel. Et après, ça devient très touchant et en même temps très intriguant. Et puis, il y a un film qui n'est pas sans défaut, didactisme manichéisme, mais en même temps qui a le mérite de parler d'un sujet dont on n'a, je crois, presque jamais parlé au cinéma, qui est Loranais, le deuxième film de l'IS Salem, qui raconte l'après-indépendance. Tu l'as vu?
Oui, et moi, je suis comme toi, j'aime beaucoup.
L'après-indépendance algérienne.
Mais il y a un souffle, il tente la fresque, il y a vraiment des choses extrêmement intéressantes.
Et puis ça a été peu montré au cinéma, c'est-à-dire cette période, évidemment, où on voit bien que...
Ça a le défaut de sa générosité, mais c'est un film qui vraiment vaut le coup.
On passe facilement de l'illusion à la compromission. Donc, Loranais de l'IS Salem et Girl at My Door de la sud-coréenne Julie Young. Eric.
Le Love is Strange de Ira Sachs aussi, parce que c'est un film qui montre que c'est toujours une erreur de se marier, quel que soit le genre. Et ça, c'est assez marrant. Et puisque vous l'avez conseillé, on ressort en DVD deux raretés de John Huston, la fameuse version dorée de Reflet dans un œil d'or avec Sophia Loren et Marlon Brando, et Fat City, un film des années 70, qui est peut-être un des films les plus beaux sur la boxe et sur les losers américains. C'est tiré d'un roman, mais ça a toutes les qualités que peuvent avoir et le cinéma et la littérature.
Le conseil de Xavier.
71 de Yann Demange, un premier film d'un jeune metteur en scène qu'on avait repéré à la télé anglaise, puisqu'il avait réalisé plusieurs séries. C'est son premier long métrage. Et c'est vraiment l'application du meilleur du film de genre dans un contexte historique qui est effectivement tragique, Belfast, 71, l'acmé de la guerre entre les catholiques et les protestants. Et en même temps, c'est un vrai film de genre, on dirait du John Ito de temps en temps. C'est-à-dire que c'est un jeune soldat britannique qui se retrouve tout seul, son unité a été décimée, et il est poursuivi par l'ennemi dans une ville dévastée où tout le monde est retranché. Et c'est un film époustouflant en termes de forme et qui en même temps se trompe. Il n'y a pas de didactisme historique, tout y est, mais de façon assez subtile.
Sur la confusion,
la perdition, la confusion.
C'est le film de Paul Greengrass, c'est aussi fort que les films de Greengrass.
Oui, absolument, avec vraiment cette force et cette conviction. Et en même temps, c'est assez époustouflant en termes de réalisation.
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci Daniel Eman, Michel Simon, Eric Nehoff et Xavier Le Herpeur pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin, avec la collaboration de Lisiane Selam ce soir à la technique, Eric Boisset, Dali Yaha, Tar Bouklifa. La réalisation était signée David Jakubowiec. Notez bien que le prochain enregistrement du Masque et la Plume, eh bien, il aura lieu le jeudi 27 novembre. Je vous attends à 20h au studio Sacha Guitry de la Maison de Radio France pour deux émissions. L'une consacrée au cinéma, l'autre au théâtre. Dans une semaine, on parlera de littérature et des prix littéraires. Après le flash de 21h, vous retrouvez Elsa Boublil et André Manoukian en direct du studio voisin, le 104, pour un concert hommage qu'il ne faut pas manquer à Nina Simone. D'ici là, bonne semaine à tous, à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.